suis parti de chez moi, j'avais 16 ans. Et j'ai commencé par quelque chose qui m'a vraiment formé. J'ai travaillé en restauration pendant 3 ans. À Val d'Isère, et je suis resté 8 ans à faire le DJ et jusqu'à être champion de France en 1985.
J'ai une anecdote, moi, quand on s'est connu chez Canal, où tu me disais, oui, moi, je voyais déjà le petit David avec ses petits vinyles.
Oui,
j'avais pas réalisé que
absolument.
Tu parlais de David Guetta.
Oui, on était à la Scala.
Voilà. Je trouve
on
ça dingue.
On mixait à la Scala avec Mitsu, l'ancien animateur d'énergie, et puis le petit gars qui venait là avec ses vinyles, qui était light jockey, c'était David Guetta. Je dis, moi, je m'appelle Christian Ledan et je cherche du travail. Voilà. Et le monsieur à côté de moi que j'ai aidé, c'était Roland Faure. Voilà, le président de Radio France à l'époque. Moi, c'était le rêve de ma vie. Hein. Travailleur européen, c'était pour moi...
L'Everest.
Oui. C'est une radio qui a bercé mon enfance.
Évidemment.
Donc, le jour où je me suis retrouvé, on allait faire des dîners avec Jean-Claude Brialy, avec José Coves, avec Roucas, avec toute l'équipe. Enfin bon, moi, j'étais en plein dans mon rêve.
Ouais.
Et donc, je débarque boulevard Pereire à l'époque à Pâté Sport.
Voilà. De Jérôme Sédoux.
Jérôme Sédoux qui est un passionné de golf et qui venait de récupérer la saison PGA Tour. Et donc, je suis resté à Radio France pendant quelques années jusqu'à ce que Alexandre Bompard, qui est arrivé à Canal+, la direction des sports, me propose de créer une cellule golf et d'intégrer 100% Canal+. Donc, j'ai quitté toutes mes autres activités. Je suis arrivé en 2004, je crois.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud, bienvenue dans Les Passionneurs, le podcast des grandes voix du sport. Équilibriste de l'audiovisuel, conteur des temps modernes, passeur d'émotions, les commentateurs ont ce pouvoir de transformer un événement sportif en une épopée légendaire. Ayant la chance d'exercer ce métier passionnant depuis plus de 15 ans, je crois qu'il est temps pour moi de vous le faire découvrir et qu'il est surtout temps pour mes confrères de nous commenter leurs propres histoires. Bonne écoute. Pour ce troisième numéro, je continue à remonter chronologiquement le fil de mes rencontres professionnelles. Mon invité, tout simplement, mon mentor, celui qui m'a donné ma première fiche de golf à la rédaction Omnisports de Canal. Journaliste, commentateur, présentateur, intervieweur, hors pair, rédacteur en chef, et même l'une des grandes voix d'Europe 1, il est et restera pour nous tous la voix éternelle du golf en France. J'ai l'immense honneur d'avoir à mon micro Christian Ledan. Bonjour Christian, comment ça va ?
Bonjour Arnaud, quelle présentation, je suis confus, je rougis.
Ça se voit pas au son, mais ça se voit à l'image. Donc comme je le disais en intro, tu as plusieurs casquettes, on te connaît évidemment pour ta casquette du golf que tu arbores depuis très longtemps maintenant. En revanche, on sait un peu moins que tu as mené une vie palpitante avant Canal, partagée entre la radio et les platines, vinyles, ça on le sait peut-être un peu moins.
C'est vrai.
Et il faudra qu'on en reparle dans un second temps. Avant, petit retour en arrière, on a tous envie de savoir comment était ton enfance et où tu as grandi.
Eh bien, écoute, moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance entourée par des femmes. Ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Moi, j'étais élevé par des femmes. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'hommes dans la famille, mais tout ce que j'ai acquis de la vie, de la relation aux autres, les grandes règles, les grands fondamentaux m'ont été inculqués par ces trois femmes. Voilà, donc ça peut expliquer par moments, cette sensibilité, cette façon peut-être très féminine d'aborder les choses. Je me sens bien dans ma peau de mec, hein,
oui.
D'homme, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que cette culture apportée par trois femmes de trois générations différentes, ça a beaucoup marqué ma vie et le début de ma vie professionnelle aussi. Elles ont été, toutes les trois, toujours été présentes, enthousiastes. Elles ont été là pour combler les doutes, les interrogations. Et donc, le fait d'avoir été élevé par ces trois femmes, ça a beaucoup compté dans ma vie. Je m'en suis aperçu évidemment au fur et à mesure des années parce que quand tu as 20 ans, tu ne t'en aperçois pas.
Oui.
Et il faut avoir un peu de maturité pour commencer à comprendre quelles sont les marques que ces femmes-là ont mis dans ma vie.
Et elles l'ont mis dans ta vie, vous étiez tous les trois
Alors oui, moi j'ai grandi dans un tout petit village près de La Rochelle.
Ouais.
Voilà. J'ai quitté l'école assez tôt parce que l'école, ce n'était pas mon truc. J'ai adoré apprendre. J'avais cette curiosité naturelle qu'on a quand on est journaliste après, qui nous aide, quel que soit le secteur d'activité. Donc j'avais beaucoup de curiosité sur tout un tas de domaines. Et puis finalement, la vie a fait que ça ne s'est pas très bien passé avec mon père. Ouais. Les rapports étaient très tendus, violents.
Ah oui.
Et donc, il a fallu que je quitte le cocon familial et que je parte très tôt. Je suis parti de chez moi, j'avais 16 ans.
D'accord.
Donc, c'est très jeune, mineur, évidemment. Et donc, il faut se débrouiller, quoi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, je suis 100% autodidacte.
100% autodidacte et à 16 ans, comment...
16 ans, tu fais des petits boulots, tu relèves les compteurs d'eau, tu vas faire la plonge dans les restaurants, voilà. Et j'ai commencé par quelque chose qui m'a vraiment formé. J'ai travaillé en restauration pendant 3 ans, voilà, à Val d'Isère, où je faisais les saisons, c'est-à-dire que tu arrives au mois de novembre, tu repars au mois de mai, tu n'as pas un seul jour de repos, c'est du 7-7 pendant 6 mois, et c'est extrêmement formateur. Donc j'ai appris en suant dans les plonges et en préparant les entremets et les desserts, ce qu'était la notion de travail.
Oui, voilà. Une valeur qui t'a toujours accompagné.
Quel que soit le lieu, que tu sois dans une rédaction d'un des plus grands médias européens ou que tu sois à la plonge d'un restaurant, cette notion de travail, elle est là. Voilà. Donc c'est, moi, je m'en suis servi comme une arme. Après, chacun, en fonction de sa vie, en fonction de son chemin, a pu choisir autre chose. Moi, ça s'est imposé directement assez tôt, parce qu'il fallait que je mange déjà et que je me loge. Donc voilà, être hébergé par les parents d'un ami, ça va un moment. Et donc, il a fallu que je prenne mon autonomie et mon indépendance très, très jeune.
À 16 ans, c'est quand même c'est assez
tôt,
impressionnant.
Ouais, c'est tôt. C'est t'es tôt. Pas formé encore.
C'est vrai. Pourtant, tu as dû te former vite.
T'as pas le choix.
Ouais, t'as pas le choix.
T'as pas le choix. Et tu sais, quand tu sors d'un système scolaire à 16 ans, que tu es un peu en marge, tu as les cheveux roux, t'as pas de diplôme. Enfin, tu sais, tu cumules tout ça et tu te dis « Ah, ça va pas être facile. » Et puis, tu t'accroches et puis tu bosses. Et puis tu t'installes, tu prends confiance, et puis après, la vie, elle te donne des opportunités. Plus tu bosses, plus tu avances, plus tu es téméraire dans tes choix, plus tu as de chance et plus ça s'ouvre.
Tu me disais d'ailleurs que ta grand-mère disait qu'au pire, ce sera non.
Oui, c'est ça. Au pire, c'est non.
À quel moment intervient la bascule alors ? À quel moment tu te dis, bon, je vais peut-être faire autre chose que les saisons ?
Oui, l'hiver, je faisais donc ces saisons, parce qu'elles ont duré plusieurs années à Val d'Isère. Et puis l'été, j'étais DJ, puisque je suis issu d'un univers musical. Ma grand-mère était violoniste, mon père a été pianiste, chef d'orchestre et guitariste. Wow. Donc la musique, moi je joue du piano, et donc la musique a été assez naturelle. Et donc l'été, j'étais DJ sur les bals itinérants à l'époque. On parle des années 70-80.
Hein. Génial.
Voilà, donc on remplissait des grandes salles de sport, etc. Et on faisait danser 1500, 2000, 2500 personnes. Donc, si tu veux, l'hiver, il y avait la restauration et l'été, c'était les platines.
Platines.
Ça a duré quelques années et après, j'ai complètement basculé en discothèque et je suis resté 8 ans à faire le DJ jusqu'à être champion de France en 1985.
Ça, voilà. Je veux parler justement de choses que les gens ne connaissent peut-être pas. Et moi, je trouve ça génial. Surtout, j'ai une anecdote, moi, quand on s'est connus chez Canal, où tu me disais, oui, moi, je voyais déjà le petit David avec ses petits vinyles.
Oui.
J'avais pas réalisé que
Absolument.
Tu parlais de David Guetta.
Oui, on était à la Scala.
Je trouve
on
ça dingue.
On mixait à la Scala avec Mitsu, l'ancien animateur d'énergie. Et puis, le petit gars qui venait là avec ses vinyles, qui était light jockey, c'était David Guetta.
C'est dingue.
Voilà.
Et des platines, t'as su rebondir en restant
dans le son. Alors les platines, c'est en 1985, donc je deviens champion de France des DJ. Alors il y a eu des étapes comme un champion de foot, hein, avec des demi-finales, etc. Et puis le premier prix, c'était un voyage autour du monde.
Waouh.
Voilà, sponsorisé par une grande marque de cigarettes américaines, qui était le sponsor majeur à l'époque en discothèque. Et donc pendant un an, j'ai voyagé. En même temps, je faisais des sets, donc j'avais gagné ce voyage.
Okay.
Tout était préparé par le pôle communication de ce grand groupe. Et moi, j'avais pour rôle de me déplacer. Alors, on est parti, on a fait toute l'Asie, Hong Kong, Macao, etc. Enfin, toute cette grande partie en Indonésie aussi. Et puis les États-Unis, Est, Ouest, Amérique du Sud, Amérique centrale. Et puis après, je suis parti dans les îles et j'avais une date à Tahiti, en Polynésie. Et l'un des patrons d'un groupe de presse média en Polynésie a voulu que je reste. Voilà. Et donc, il m'a fait une offre que je n'ai pas pu refuser. Voilà. J'avais un petit bébé à l'époque, c'était mon premier enfant. Et j'ai fait venir toute la famille en Polynésie. On y restait 3 ans.
Génial.
Voilà. En radio, presse écrite.
Fantastique.
Voilà. Voilà comment ça a démarré.
Et quel style, juste par curiosité personnelle, mais quel style de musique tu jouais
À l'époque, c'était tout ce qui passait dans les clubs, quoi.
Ouais.
Ouais, tout ce qui passait dans les clubs. On était très. Moi, je travaillais beaucoup avec des amis en Belgique qui étaient très très pointus sur tout ce qui est devenu après l'après disco, la funk, etc.
Ouais.
C'était le début du rap aussi. Ouais. donc avec Sugar Hill Gang, avec tous ces classiques. C'est, on a assisté à la naissance de nombreux courants, hein, même le courant comme le ska qui n'existe plus maintenant.
C'est vrai.
Voilà, on a eu beaucoup d'opportunités de surfer sur des courants musicaux assez intéressants. Voilà, donc et après j'ai lâché la discothèque quand je suis rentré en métropole.
Ouais, parce qu'après après un retour en métropole.
Ouais, on a fait un stop, on est resté quelques temps à Los Angeles où j'ai travaillé dans une radio à KKHM et puis après on est rentré en métropole et je me suis installé en Provence. Voilà, où j'ai intégré le réseau Radio France.
D'accord.
Voilà,
c'est de là.
Avec une opportunité et avec une histoire assez incroyable. Et donc, je ne sais pas si on a le temps de raconter.
Mais si, justement, j'allais dire, c'est-à-dire.
Moi, donc, ça m'intéresse. Je rentre de Polynésie. On n'a rien, évidemment, parce qu'on est parti avec rien. Donc, pas de voiture, pas de vêtements, pas de maison, pas d'électroménager. Et puis, un petit bonhomme, en plus, qui est toujours, mais qui était handicapé déjà à l'époque. Donc, c'était un peu complexe.
Ouais.
Et j'apprends qu'une nouvelle radio de Radio France va se créer dans l'ancien archevêché d'Aix-en-Provence, qui est un lieu magnifique, superbe, où on a le festival lyrique tout l'été.
Ouais.
Et donc, moi, je me déplace et je vais voir. Et en fait, je tombe sur l'électricien, le plâtrier. Enfin bon, c'est un gros chantier, mais il n'y a pas de radio encore. Hein. Et donc, j'y vais régulièrement. Toutes les semaines, je passe pour voir où en sont les chantiers et surtout pour voir les équipes arriver et puis postuler.
Ouais.
Voilà. Et donc, en attendant, je travaille en discothèque. Mais si je voulais passer à un autre cap. Et puis, un jour, j'arrive. Donc, je connaissais l'archevêché par cœur. C'est un labyrinthe. Hein. Il faut imaginer la situation. C'est des escaliers, des couloirs. Enfin, c'est immense. Et donc, de quoi se perdre. Mais bon, je connaissais maintenant puisque j'y venais toutes les semaines. Et un jour, j'arrive. Et dans le hall, qui n'était pas éclairé d'ailleurs, tout pavé avec un énorme escalier dans l'archevêché, il y a un monsieur qui est là devant moi. Monsieur d'une cinquantaine d'années, très bien habillé, costume trois pièces, costume rayé, deux sacoches en cuir, des jolies chaussures. Il me dit, dites-moi jeune homme, savez-vous où sont les locaux de Radio France Provence? J'ai dit, Michel Quérou, l'ancien directeur, s'il écoute, ça va lui rappeler quelques souvenirs. Je lui dis, bien sûr, je connais, est-ce que je peux me permettre de vous montrer le chemin? Ah ben oui, vous êtes très aimable. Et puis je le vois chargé, donc moi naturellement, je prends une valise. Voilà, mon éducation fait que j'aide ce monsieur parce qu'il a des bagages, tout simplement. Et donc je passe devant lui avec sa valise et puis j'arrive dans les lieux de la radio et là, miracle, tout est prêt. Il y a du monde partout, des ordinateurs sont installés. En une semaine, tous les travaux étaient terminés et tout était installé. Et là, je vois les gens sortir des bureaux avec empressement, etc. Et puis, on est dans le couloir. Et au bout du couloir, il y a donc Michel Quérou, le directeur de la nouvelle station, qui était déjà directeur d'une station à Nice, je crois, et qui dit « Ah, président, je vous attendais
wow. !»
Et donc là, on rentre, un quiproquo incroyable. Et on rentre, il ferme la porte et moi je suis dans le bureau du directeur, le monsieur bien habillé à côté de moi, ses valises, il dit mais asseyez-vous, alors vous êtes venu avec votre secrétaire. Et donc le monsieur en question dit ben non c'est pas mon secrétaire, ce gentil jeune homme m'a demandé, m'a aidé à venir jusqu'à vous. Et Michel me regarde et il me dit mais qu'est-ce que vous faites là, vous êtes qui? Je dis ben moi je m'appelle Christian Ledan et je cherche du travail.
Waouh. C'est fantastique.
Et le monsieur à côté de moi que j'ai aidé, c'était Roland Faure.
Ok, d'accord.
Voilà, le président de Radio France à l'époque. Voilà, qui était ensuite appelé à d'autres fonctions, un homme incroyable que j'ai revu évidemment. À chaque fois qu'on se revoyait, on parlait de cette anecdote. Et donc, Roland Faure a dit au directeur, bah, écoutez, la moindre des choses, c'est de prendre le CV de ce garçon. Hein? Et voilà.
Oui.
Et je suis resté 4 ans. Voilà, j'étais embauché. Ouais, 4 ans. Et puis, au bout de 4 ans, un directeur des programmes était en vacances en Provence, Patrice Blanc-Francard, qui était à l'époque directeur des programmes de Radio France et qui connaissait notre chef d'antenne à Radio France Aix et qui a dit bah, « Écoute, j'aimerais bien que ce garçon dont j'entends la voix vienne me faire l'été à Europe 1. »
Génial.
Donc, on y va. Mais c'était pour 2 mois hein, seulement.
Mais il faut
voilà. Donc, je suis parti faire cet été, je crois que c'est en 1990 de mémoire. Et je suis parti faire ces 2 mois. Et au bout de 2 mois, je devais rentrer en Provence. Sauf que moi, j'ai pris le pari de scolariser mes enfants, de chercher un appartement.
Ah oui.
Et de donner ma démission à Radio France Provence, comme si j'allais au 1er septembre de cette année entrer à Europe. Voilà, il faut avoir un grain de folie. Voilà.
Ouais.
Et 2 jours avant la fin de mon contrat de l'été, Patrice Blanc-Francard m'appelle et me dit « Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je peux te garder. Voilà, j'ai une défection, j'ai quelqu'un qui est parti ailleurs que sur lequel je comptais et qui peut pas être dans la grille de rentrée, donc je te garde. La mauvaise nouvelle, c'est que le créneau, c'est la nuit. »
Ah,
voilà. Et donc, je suis resté à faire les créneaux de nuit de 1h à 5h du matin pendant presque 2 ans.
Ah oui.
Et après, j'ai fait les matinales, j'ai fait les soirées, j'ai fait le top 50 avec Yann Kulik, j'ai fait toute la grille en 10 ans. Quoi.
C'est dingue. Et qu'est-ce qui était le plus difficile, la nuit ou
Non, le plus dense, le plus intense, c'était quand on faisait les petits matins. Quand on ouvrait l'antenne, à l'époque, on était avec Jean-Luc Delarue, Pascal Clark, voilà, il y avait Laurence Ferrari, ils se souviennent tous de cette époque-là. On était un petit paquet à être jeune animateur ou jeune journaliste.
Ouais.
Et moi, c'était le rêve de ma vie, hein. Travailler Europe 1, c'était pour moi...
L'Everest.
C'est une radio qui a bercé mon enfance.
Évidemment.
Donc, le jour où je me suis retrouvé, on allait faire des dîners avec Jean-Claude Brialy, avec José Coves, avec Roucas, avec toute l'équipe. Enfin bon, moi, j'étais en plein dans mon rêve.
Ouais.
Voilà. Et c'est là où j'ai fait des centaines d'interviews, parce que j'avais une émission qui s'appelait En français dans le texte. En tout, j'en ai plusieurs, mais ça me permettait d'avoir entre 6 et 8 invités par semaine.
Par semaine ?
Oui, par semaine. C'était
du gros boulot.
Oui, parce que ça comblait nos week-ends, en fait.
Ah oui, bien sûr.
Voilà, et c'était des interviews enregistrées en semaine. Donc, j'ai fait des dizaines et des dizaines d'interviews pendant toute cette période-là. Et les multiplex football aussi un peu, avec mon pote Yann Kulik, c'est Eugène Saccomano qui m'avait demandé de temps en temps de faire des multiplex football avec Marc Fréjean, Manette, le réalisateur. Et donc voilà, c'est une très très belle période, j'en garde vraiment un très beau souvenir.
Oui, ça se sent. Mais comment t'as fait au début pour... Parce que la radio, c'est quand même un métier...
La radio, je l'avais commencé à l'époque déjà, quand je travaillais en saison à Val d'Isère, donc à la fin des années 70, il y avait une petite station qui émettait, une station de Radio France, qui émettait que pendant la période d'hiver, pendant les vacances scolaires notamment. Et donc moi, je venais y présenter bénévolement quelques disques que j'achetais et que je présentais comme ça, comme c'était la grande époque des poste radio libre,
oui.
Voilà. Et ça permettait surtout d'avoir des gens passionnés à l'antenne. Quoi.
Bien donc, sûr.
Moi, je ne réalisais pas à cette époque-là. Moi, je voulais présenter mes vinyles, j'étais super content. Mmh. Et voilà comment j'ai commencé la radio.
D'accord. Voilà. Tu avais déjà une bonne impétence.
Ouais, et puis quand les DJ des années 80, on parlait beaucoup au micro. Aujourd'hui, on ne parle plus. Hein.
C'est vrai.
C'est fini.
C'est vrai.
À cette époque-là, il fallait animer les soirées. Il fallait chanter, il fallait rapper, il fallait parler aux gens. Enfin, voilà. Donc, le micro, ça a toujours été le dénominateur commun à toutes ces passions. Parce que c'est que des passions, en fait.
Oui. Hein.
Que ce soit, à part la cuisine où c'était un peu rude. Mais le reste, c'était que des passions. J'ai passé 40 ans de ma vie à exercer des passions, en fait.
Voilà. C'est beau.
Je pense que c'est rare.
Oui, très.
Voilà. Mes enfants, j'ai beaucoup d'enfants, mes belles-filles, peu exercent, j'en ai un sur mes 8 enfants qui exercent un métier passion.
Ah oui.
Tous les autres, c'est des métiers, agréables certainement, mais en grande partie alimentaires, quoi.
Ouais, ouais.
Voilà, comme la plupart des gens.
C'est terrible.
Donc, quand on a, pour moi, c'est une grande chance. Bon, c'est la loterie de la vie, hein, ça s'est fait comme ça, mais c'est une grande chance de pouvoir vivre et faire vivre sa famille avec sa passion.
Mais Robert Chapat disait justement que ne pas avoir de chance dans ce métier, c'était presque une faute professionnelle.
Je pense que ça se provoque tout simplement, la chance. Voilà. On peut mettre n'importe quel mot comme on veut, hein, on peut appeler ça le destin, ce que tu veux, peu importe. Mais je pense que ça se provoque, oui. Il faut un petit peu de culot ou de l'audace. Mais il faut être à la hauteur de son culot, de son audace aussi. Hein.
Ce qui a été le cas pendant...
Parce que tu ne peux pas faire effet... tu fais effet... quelques jours si t'es un peu une sorte d'usurpateur,
oui.
mais après faut assurer, quoi.
Ouais, faut s'inscrire dans les...
Parce que quand tu rentres dans les grands médias type Europe 1, Canal Plus, tu peux pas faire illusion longtemps.
Ouais.
Tu peux faire illusion, mais pas longtemps.
Oui, bien sûr. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit qu'il fallait arrêter Europe 1 et...
En fait, ça s'est fait contre mon gré, puisque j'étais viré.
Ah.
Voilà, enfin, on a fait partie d'une charrette. Il y avait Jean Amadou, il y avait Roucas, il y avait Laurent Cabrol à cette époque-là en cette charrette. Si Laurent m'entend, il va s'en souvenir. Après, il est revenu, mais on a eu une charrette 99-2000. par là,
ouais.
où on s'est fait tous virer.
Mais pour un motif...
Changement.
On ne sait jamais vraiment quoi.
Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Et je me rappelle que cette saison, moi j'avais préparé, j'étais en vacances avec mes enfants au mois d'août, et j'avais préparé ma rentrée avec mes invités, etc. J'avais deux émissions le week-end, et on m'appelle à deux jours de la rentrée pour venir en urgence à Paris. Et on me dit, le directeur des programmes à l'époque me dit, bah, j'ai plus besoin de toi. En fait, je suis content de ce que tu fais, il n'y a pas de problème, tu fais de bonnes audiences, mais j'ai besoin de ta place.
Ouf.
Voilà, donc bah, tu ne fais pas la rentrée. Voilà comment ça s'est passé.
Et deux jours avant, ça c'est...
Ouais, bah, c'est les contrats, c'est comme ça. Hein. Tu sais, en radio à cette époque-là, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à cette époque-là, on signait un contrat de septembre jusqu'en fin mai ou mi-juin. Et après, on signait un autre contrat de mi-juin jusqu'à fin août.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et donc, il n'y avait pas de préavis, pas de machin, pas de truc. Voilà, c'est on te garde ou on ne garde pas, quoi.
Et voilà. Après...
C'était l'épée de Damoclès deux fois par an.
Oui, deux fois par... En plus, deux fois par an.
Ah quoi. Oui, deux fois par an.
Ouais. Voilà.
Donc, pas de CDI, pas de tout ça, évidemment. Mmh. Pas de congés payés, pas de... Ça ne marche pas comme ça.
Et quand on t'annonce ça, comment tu
rebondis ? Tu le prends mal.
Ouais, clairement.
Tu le prends mal.
Surtout quand ça marche bien.
Et donc, j'étais en pleine dépression parce que jusqu'à présent, je n'avais pas connu d'échec.
Oui.
Je ne m'étais jamais fait virer. Et donc, c'est la première fois de ma vie. Donc, je ne sais pas comment on fait.
Oui.
Voilà, ça, je ne sais pas comment ça marche. Et donc, j'ai un de mes cousins proches qui habite à Vannes et qui me dit, allez, viens, on va prendre... Il a un petit bateau, tu sais, un petit bateau à voile, un vieux truc. Il me dit, viens, on va sortir, on va prendre l'air, ça va te faire du bien, etc. Mmh. Donc, je pars à Vannes. J'étais au fond du trou. Et puis, on arrive à Vannes, force 7, l'enfer, impossible de sortir le bateau. Il me dit, viens, on va aller taper des balles au golf. Je dis, quoi de quoi tu me parles ? Il me dit, bah, j'ai un petit sac, on va taper des balles. Moi, j'avais jamais joué au golf de ma vie. Mmh. Moi, je faisais du jet ski, du ski, de la moto de piste, enfin, du tennis beaucoup. Ouais. Bah, des vrais sports, quoi.
Un peu plus physique, quoi.
Bah oui. Ouais. Et donc, on va au golf de Baden.
Okay.
Voilà, juste à côté de chez lui, il y a un petit trois trous. Je ne sais pas s'il existe toujours. Il y avait un petit compact trois trous. Et il avait une demi-série. Et je tape un fer 7. Je n'avais jamais joué de ma vie. Et premier coup que je joue, la balle décolle, fantastique. Voilà. Et les 150 suivantes n'ont fait que du rasmote. Mais celle-ci m'a marqué. Et donc, quand je suis rentré chez moi, j'habitais à Marcoussis à l'époque. Et quand je suis rentré chez moi, je suis allé au golf qui était le plus près, le golf de Marivaux.
Bien sûr.
Voilà. Et sur lequel j'ai passé pendant un an et demi mes journées.
Ah oui.
Voilà, je suis resté. Alors, je bricolais à droite à gauche pour nourrir ma famille. Je faisais des animations, des choses comme ça. Et puis, je consacrais ma vie au golf. Ce qui fait que.
Littéralement.
En un an et demi, je suis passé de 36 de handicap à 5,5.
Ah oui, en plus.
Mais je faisais que ça.
Ouais. Voilà. C'était devenu.
Je me suis fait aider, bien sûr, etc. Ouais. Et c'était devenu une façon de filtrer cet échec que j'avais connu. Je me suis lancé à corps perdu dans cette nouvelle activité que je trouvais passionnante. J'ai été complètement piqué par ce sport que j'ai trouvé phénoménal.
Ouais.
Et ça m'a permis d'évacuer cet échec. C'est parce que quand tu es viré, ça veut dire qu'on ne veut plus de toi. Mmh. Et ça veut dire que tu ne comptes plus. Quoi.
Ouais. Puis toi qui es très dans l'émotion en plus,
donc,
ça t'a touché en plein cœur.
Donc forcément. Ça m'a fait du bien, tu vois. Et c'est comme ça que le golf est rentré dans ma vie.
Surtout que c'est un peu, parfois à l'antenne on dit que c'est un art martial occidental, entre guillemets bien sûr, mais c'est un peu l'école de la vie aussi, le golf, et ça te permet aussi de surmonter ce...
Ouais, j'ai trouvé ce sport totalement en adéquation avec la vraie vie en fait.
Ouais.
Voilà. Sur une partie de golf, tu peux retrouver les points fondamentaux de l'humain, homme ou femme bien sûr, sur ce que tu représentes, sur ce que tu fais, comment tu gères l'échec. Comment tu rebondis dans ta vie, comment tu rebondis dans le jeu quand tu viens de te prendre deux doubles bogeys et un triple, comment tu fais pour jouer le trou suivant, enfin voilà. Alors évidemment, avec ces similitudes, tu vas puiser en toi. Voilà.
Ouais.
C'est ce que j'ai aimé tout de suite dans ce sport.
C'est dingue. Voilà.
Et puis après, bien, les choses se sont enchaînées. Après, j'ai un ami qui était viré d'Europe 1 comme moi, qui s'appelle Claude Bellet. Et qui me dit, il m'appelle un jour et il me dit « Ah, je sais que tu t'es mis au golf, t'as dû faire une compétition avec ma femme, oui peut-être. » Et il me dit « J'ai besoin de toi. » On avait travaillé ensemble pendant 8 ans à Europe 1, lui était chef du bocal, ce qu'on appelle le bocal, c'est le journaliste qui organise un peu le travail, qui gère un peu l'antenne. Voilà, il était responsable d'un bon paquet de journalistes. Il me dit, mais non, mais tu vas voir, tu sauras faire, etc. Et donc, je débarque boulevard Pereire, à l'époque, à Pâté Sport.
Voilà. De Jérôme Sédoux.
Jérôme Sédoux, qui est un passionné de golf et qui venait de récupérer la saison PGA Tour qui devait être à l'antenne de Pâté Sport. Et donc, il lui manquait un journaliste.
Incroyable.
Et donc, j'ai fait un essai avec un monsieur que je ne connaissais pas, Dominique Larech. Et on a fait cet essai et j'ai été pris. Et je me suis retrouvé, comme toujours, hein, j'étais pris là. Et en même temps que je fais des piges à Pâté Sport, RTL m'appelle. Et je me retrouve à faire les animations des matinales du week-end à RTL, etc. Et puis après, j'ai également d'autres activités. Enfin bref, tout est arrivé en même temps. J'étais débordé de boulot. Je bossais
toujours comme ça.
7 sur 7, voilà.
7 sur 7.
Voilà. Et donc, plus le temps de jouer au golf.
Et plus, malheureusement.
Voilà. Et donc, on a commenté le golf avec différents consultants sur Pâté Sport pendant un an. Il y avait Patrice Barquès à l'époque déjà.
Déjà.
Ouais. Et puis, eh bien, la chaîne a été rachetée par Canal+.
Oui.
Voilà. Et un jour, on a vu débarquer le staff de Canal à Pâté Sport et donc on a été racheté et je me suis retrouvé à Canal à commenter du sport, du golf en l'occurrence, en étant pigiste.
Oui, voilà. En étant pigiste.
Ouais, ouais. Et puis, je suis parti d'RTL parce qu'on m'a proposé un beau contrat. Jean-Marie Cavada, qui était un des boss de Radio France à l'époque, m'a proposé de venir prendre la quotidienne de France Bleu National pour animer. Alors là, on était évidemment sur des invités de la société civile. Hein. Ça, oui, pouvait être des chirurgiens, des astrophysiciens, des romanciers, des réalisateurs, des acteurs, des chanteurs, etc. Donc, j'animais cette tranche quotidienne.
Quotidienne.
Du lundi au vendredi, de 17h à 19h30. Et en plus, donc, les piges de Canal, plus les autres. Donc, c'était full, 7 sur 7. Quoi. J'ai pas vu beaucoup mes enfants à cette époque-là.
Ouais, j'imagine.
Et donc, je suis resté à Radio France pendant quelques années jusqu'à ce que Alexandre Bompard, qui est arrivé à Canal+, la direction des sports, me propose de créer une cellule golf et d'intégrer 100% Canal+. Donc, j'ai quitté toutes mes autres activités. Je suis arrivé en 2004, je crois, 100% à Canal.
Avec tout à faire.
Et tout à faire, tout à créer, etc. Avec des grosses grilles jusqu'à la création de la chaîne Sport Plus.
Ouais.
Golf Plus, pardon. Qui était Sport Plus. On avait des directs sur Sport Plus à l'époque. Et on a créé Golf Plus, spécifique 100% golf.
Golf Plus qui a été le fruit en plus de longues tractations.
Ouais, c'est ça. Ouais, et tout ça, c'est une période d'une vingtaine d'années à peu près, entre 18 et 20 ans.
Ah oui, parce qu'au début, en 2004, il y avait quand même du PGA Tour.
Ouais, il y avait un peu de golf, il y avait également du Challenge Tour, il y avait un peu de lettres aussi.
Oui.
Ouais, absolument. Et c'était sur Pâté Sport qui était devenu Sport Plus.
Oui.
Voilà. Et c'était maintenant, à cette époque-là, c'était au sein du groupe Canal.
Oui,
voilà. La rédaction. Mais le golf était un peu mis, comme c'est long, évidemment, c'était un peu saupoudré sur la grille, quoi. Jusqu'à ce qu'on crée Golf Plus, qui là vraiment avait une entité 100% golf, quoi.
Surtout qu'en quelques années, le nombre d'heures de diffusion de golf a vraiment explosé.
Moi, je me rappelle le premier Masters que j'ai commenté, ça devait être en 2005, je crois. Le premier Masters que j'ai commenté, on faisait 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche avec Bernard Pascassio.
Ah oui. Ça a beaucoup changé.
On faisait pratiquement les 9 derniers trous, quoi. Et ouais. Après, on est passé à 3 heures le dimanche. Et puis, c'était une révolution. Un jour, on a fait 4 heures de direct le dimanche. C'était
dingue.
Ouais. Et puis, heureusement, aujourd'hui, on a la possibilité de vivre l'intégralité de non seulement des dernières parties, mais aussi de ce qu'on appelle les futures groupes, qui sont un peu en amont de la programmation.
Ouais.
Enfin, on peut retrouver 7-8 heures d'antenne. C'est ce qui est assez, ce qui paraissait à l'époque totalement incroyable.
Mais à l'époque, c'était purement financier comme explication ou juste
ouais, puis c'était pas produit.
Ouais.
C'est-à-dire les Américains, puisque si on veut reprendre les majeurs notamment ou Augusta, la production ne donnait pas pour la télévision internationale autant de temps d'antenne qu'aujourd'hui.
C'est vrai.
Voilà, le faisceau, ce qu'on appelle le faisceau, c'est-à-dire l'ouverture satellite sur lequel on peut piocher les images, ça ouvrait 3 heures, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Et puis après, c'était fermé et donc on n'avait plus d'images. Donc nous, on aurait bien voulu diffuser davantage, mais il n'y avait pas.
Ouais, à l'époque, voilà. C'était pas possible.
Non, non. Donc tout ça, c'est ouvert. Tout ça a beaucoup changé. Les droits internationaux ont changé aussi. D'autres pays s'y sont mis. Et donc, ce qui a permis à notamment Gauche Plus de s'étoffer, quoi, et de proposer des programmes incroyables après. C'était monumental.
Ouais, notamment le rendez-vous.
On a eu des 10 heures sur l'Open britannique. Enfin bon, c'était devenu complètement fou. Quand on est passionné, c'est génial à gérer, quoi. C'est
puis surtout de se déplacer, parce que toi, t'as vécu des déplacements.
Ah oui, oui, sur place. Oui, les majeurs sur place. On a fait les championnats du monde sur place. On a fait les Ryder Cup. J'en ai fait 7, donc sur place. Ouais. Donc ça commence à compter. Et beaucoup de joie à vivre ça quasi au quotidien, quoi.
Mais c'est ça. Et pour toi, je sais que tu as un amour particulier pour les Masters.
Oui.
Mais pour quelle raison ? Par rapport à un autre majeur, ouais. Pourquoi plus
Parce que pour différents points. Des points déjà journalistiques et puis des points historiques.
Oui.
Voilà. Le Masters, c'est vraiment... Enfin, je sais que là, je peux parler pour la plupart de mes potes journalistes suédois, belges, italiens, espagnols, avec lesquels on a gardé pas mal de contacts, les Allemands aussi. On était tous d'accord pour dire que, voilà, en matière de couverture, à titre personnel, je ne parle pas de la couverture de l'antenne, mais en tout cas, à titre personnel, en matière de couverture journalistique, c'est ce qu'on préférait faire.
Ouais.
Vraiment. Le lieu, la façon dont on est reçu... La façon dont les joueurs vivent cette semaine, tout est unique en fait. Ouais. Voilà. Et pourtant, ou grâce, ça dépend de quel côté on se situe, c'est le seul majeur qui se situe toujours au même endroit.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est vrai. Depuis 1934, c'est toujours à l'Augusta National. Alors tous les autres majeurs, même si l'Open britannique revient régulièrement sur les parcours mythiques, mais c'est le seul majeur de l'année qui se déroule toujours au même endroit. Et donc, ça pourrait créer une lassitude, mais pas du tout. Au contraire.
On est pénétré par l'histoire.
Ouais,
et
ouais, ouais. C'est assez étonnant.
Ça te faisait ça à chaque fois ?
À chaque fois. Et le dernier Masters que j'ai commenté en direct sur place, c'était en 2019, l'année du dernier trophée de Tiger Woods. Où il fallait être là. Donc, j'y vais ça un peu comme mon dernier Masters parce que je pensais décrocher dans quelques temps après. Mais j'ai vécu ça comme mon dernier. Et je l'ai vécu à 100% et c'était... Au bout de toutes ces années, des dizaines et des dizaines de directs, ça a été magique,
pour
incroyable.
Toi, ça reste des grands souvenirs.
Ouais, et puis en plus, effectivement, c'était le dernier. Donc,
en plus.
Mais c'était incroyable, la dernière victoire de Tiger en date. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Hein.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est la dernière victoire en majeur, et on a vécu ça, mais à 100%. Voilà, avec les larmes qui coulent sur le 18 à la fin au micro, enfin l'émotion, enfin
ouais.
C'est ce sport peut te donner, comme d'autres, hein, il n'y a pas que celui-ci, hein, il y a d'autres sports qui peuvent te transcender et t'amener des émotions très fortes, mais celui-ci c'était quand même assez spécial, quoi.
Assez spécial, tu me parlais du fait que tu aurais peut-être aimé commenter un jour une victoire d'un Français sur le PGA Tour.
Oui, et c'est mon pote Adrien Toubiana qui l'a fait. Je suis très heureux, enfin pas tout seul évidemment, mais je suis très heureux pour lui, pour l'équipe de Golf Plus qui a eu à commenter cette opportunité de commenter la victoire d'un Français sur le circuit américain et un Français qui a été numéro 1 au classement de la FedEx, quoi. Si on nous avait dit ça, imagine. Il y a un an, voilà, on aurait été à ce micro, on aurait dit, eh bien, vous savez, en 2024, on aura un Français numéro 1 de la FedEx qui va gagner sur le Tour. Enfin, je pense qu'on n'aurait pas été crédible. Comme quoi, tout peut arriver.
Tout peut arriver.
Vraiment, exactement. Vraiment.
Mais à part ça, quand même, c'est comblé par le fait que tu aies vécu Tiger. Disons que c'est une bonne compensation.
Oui, non, mais j'étais tellement heureux pour l'équipe de Golf Plus avec qui j'ai gardé de très, très bons contacts. J'ai vibré en même temps qu'Adrien, qu'avec François, avec tous les garçons qui étaient là pour nous faire vivre cette victoire de Mathieu Pavon sur ce circuit américain emblématique, évidemment. Oui. Voilà. Et donc, on était vraiment très, très heureux, non seulement pour Mathieu, pour son entourage et ce travail. C'est un garçon qu'on connaît depuis très longtemps, depuis ses débuts. Et puis, très heureux pour l'équipe de Golf Plus, parce que c'est historique, quoi.
Mais tout à fait d'accord.
Voilà.
Moi, je me souviens, j'ai quand même un souvenir par rapport au majeur. C'était le British Open en 2010, la victoire de Louis Oosthuizen.
Oui, à Saint-Andrews.
Alors, la 150e à Saint-Andrews.
Ah, hey.
Et je tiens à dire que j'étais stagiaire à ce moment-là.
Oui, c'est vrai.
Et que tu m'avais ramené une boîte avec des tees et un marque-balle.
Oui.
Et t'es la seule personne de ce métier à avoir fait ça et à avoir pensé aux autres. et je tiens à le souligner dans ce podcast, et ça vraiment ça marque toute ta vie et ta carrière, je trouve. C'est la générosité et l'émotion que tu transmets, même ce geste là c'est
partagé,
ça m'a marqué à vie. Ouais, je pense
partagé. Tu sais, moi, je reviens sur les premiers mots de cet entretien, de ce podcast, quand je t'ai dit que j'étais élevé par ces trois femmes, ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et parmi les grands principes de vie, c'est de respecter les gens. Mmh. Voilà, quel qu'ils soient, quoi qu'ils fassent. Voilà. Et par exemple, quand on arrivait en plateau, moi, j'allais serrer la main et dire un petit mot à l'ingé son, au script, au poste LSM. Tout le monde ?
Oui.
Tout le monde ?
Évidemment.
Voilà. Et ouais. Ils ne sont pas plus importants quand celui qui est derrière le micro, qui monte sa tête à la télé, n'est pas plus important que celui qui prend le son. Hein.
Oui, bien sûr. Bien
pour
sûr.
Moi, c'est pareil.
Pour toi, c'est pareil.
Ah oui, oui. Ça, bien sûr. Ça. Sans lui, je ne suis rien.
Ouais.
Et sans moi, il ne peut pas faire grand-chose non plus. Bon. Donc, ça on est tous aussi. Au même niveau. Ouais. Voilà. Et j'ai toujours... c'est pas un truc fabriqué, c'est un truc naturel.
Et ça se ressent, de toute façon.
Oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est ma façon d'être. Voilà. Pour moi, la personne qui va nettoyer les bureaux à 5h du matin dans une grande tour de la Défense est aussi respectable qu'un gars qui vient de racheter sa troisième entreprise et qui vient de prendre des points CAC 40. Mmh. L'un et l'autre sont, à mon sens, humainement, pareils.
Oui, pareil.
Et c'est ce en qui, tout cas, à mes yeux.
C'est ce qui t'a permis, toi, de garder d'aussi bons liens avec Canal. Parce que souvent, on se pose la question, quand il y a des mercatos dans les médias, que les uns s'en vont, d'autres arrivent. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un claquement de porte ou...
Ah bah c'est sûr que ce n'est pas facile. Hein. Quand tu restes 20 ans dans une boîte, oui, il y a des gens qui veulent te dégager.
Oui.
Ça, c'est la vie. Hein.
C'est ce que tu as ressenti.
Partout où tu vas, si tu ne fais pas ce qu'il faut pour être performant, pour travailler, pour être assidu, etc. Parce que tu peux même te faire virer quand ça marche.
Oui,
je l'ai vécu.
La preuve, Europe 1.
Voilà. Donc ça marchait bien, j'avais de bons sondages, etc. Et pourtant, tu te fais dégager. Donc si en plus tu bosses pas,
ouais.
Tu multiplies les chances, quoi.
Ouais, évidemment.
Voilà.
Et donc toi, c'est toi qui a pris les devants et qui l'a annoncé ou...
Oui, j'en ai parlé un peu autour de moi en disant que je voulais décrocher. J'ai tellement. Enfin, cette vie de passion, c'est bien de vivre une vie de passion, de nourrir sa famille avec un métier qui n'est pas un métier finalement, c'est un truc de vie. Depuis 40 ans, je vivais de ces passions. Le problème, c'est que c'est un peu égoïste. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, les enfants ont grandi, mes épouses sont arrivées, sont parties. Enfin bon, c'est une vie un peu qui part en ficelle, quoi. Hein,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Donc, tu ne rattrapes pas le temps. Hein, mais tu peux dire à un moment, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, stop, il faut que tu passes à autre chose.
Ouais.
Et que tu stabilises peut-être un peu plus ta vie de famille et tout ce qui se passe autour de toi. Alors encore une fois, tu rattrapes pas ce que tu n'as pas fait, c'est fait. Mais en revanche, tu peux peut-être combler un peu, voilà. Donc c'est ce qui m'a aussi motivé. La période Covid, les confinements m'ont fait beaucoup réfléchir. Voilà. Et puis, à un moment, moi, je ne voulais pas me druckeriser, avec tout le respect que j'ai pour Michel. Voilà, un petit clin d'œil. Mais je ne voulais pas... Enfin, c'était pas ma façon de ressentir les choses. Il y a certaines personnes qui ont envie de travailler jusqu'à 70, 15 ans, 75 ans, 80. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Tant mieux. Hein, mais moi, je ne le ressentais pas comme ça.
Ouais.
Moi, je me suis dit, OK, tu as fait ton temps, place aux jeunes. Et puis voilà, je ne voulais pas... être sur le bord de la touche en disant voilà, je vais faire pitié et ils vont me garder.
Non.
Enfin, j'avais pas envie de ça, quoi. Voilà.
Donc je rappelle quand même les chiffres à ton actif: 760 tournois, 50 majeurs, 40 WGC, 7 riders. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais?
Ah ben, je suis toujours le même, si tu veux. J'ai été Christian Ledan avant d'intégrer l'audiovisuel. J'ai été Christian Ledan pendant cette période-là, avec l'image, etc. Maintenant, je suis toujours Christian Ledan. J'ai plus d'image, j'ai plus rien, mais je m'en moque complètement. Je sais qui je suis.
Oui.
C'est pas grave.
Oui.
Voilà, on peut exister sans être exposé. Si on est exposé, ça fait partie du business, ok, tant mieux, c'est bien, on fait un métier public, etc. Ouais. Mais s'il n'y a plus, il n'y a plus, hein, c'est pas grave, hein. On continue d'exister.
Oui, bien sûr.
Voilà,
bien
moi, sûr. Moi je sais qui je suis et je vis différemment aujourd'hui. Alors je donne plus de mon temps, je suis très très impliqué dans tout le système caritatif, dans de nombreuses associations. Voilà, j'essaie de redonner un peu ce que la vie a eu la chance de me donner. Voilà, alors c'est pas pour avoir bonne conscience, c'est que j'ai juste envie de le faire et que ça me fait plaisir.
Mais justement, tu peux nous en parler un peu de cet engagement, parce que je trouve ça...
Ouais, alors je donne des coups de pouce avec, par exemple, Personnage.
Ouais.
Voilà, on organise des compétitions de golf. Je donne des coups de pouce également au Maroc. Voilà, avec des amis comme Abdel Benazi, mais pas que, aussi à El Jadida, sur les enfants des rues. J'ai travaillé plusieurs fois également pour aller mettre en place des dispensaires en Inde. On travaille aussi avec le Brésil.
Oui, j'ai vu des images.
Voilà, oui, bah oui, il y a
dans les favelas.
Un journaliste qui nous a suivis à l'époque des Jeux Olympiques à Rio. Et oui, effectivement, avec mon épouse, on est allé pendant 2 semaines... à cette époque-là, donc on y va régulièrement, maintenant on les suit, avec une ONG, aider les gamins à sortir un peu de leur misère, quoi, de leur quotidien si dur. Voilà, donc on ne va pas changer le monde. Hein, voilà.
Un petit peu quand même.
Moi, je mets voilà, ma petite cuillère avec du liquide de bonheur dessus, et puis ce qui est fait, et même si c'est que sur une trentaine ou une quarantaine d'enfants, ce n'est pas grave, mais au moins ça s'est fait.
Mais oui. Exactement.
Voilà, c'est le colibri. Hein.
Je fais ma part. Le colibri.
Voilà. Donc je donne de leçons à personne. Je juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en tout cas, je le fais.
Ouais. Voilà. Il y en a plein qui ne le font pas.
Oui, bah, peu importe. C'est pas grave. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà. Si on peut changer le destin d'un, deux, trois, quatre enfants, pourquoi pas ?
C'est toujours ça de prix.
Oui, exactement. Avait... Voilà.
Et à côté de ça, est-ce que tu es toujours engagé dans le golf ? Est-ce qu'il y a encore des activités ?
Oui, alors, c'est un truc formidable quand on décroche des activités professionnelles, et notamment le golf, parce qu'il y a un truc frustrant quand tu commandes du golf pendant presque 20 ans, c'est que tu ne joues pas beaucoup.
Tout à fait. Bah,
alors, on t'invite sur des parcours magnifiques. J'ai joué beaucoup de parcours de majeurs, enfin bon, aux États-Unis, partout. Sauf que quand tu joues, t'es fracassé de ta semaine, t'as travaillé comme un fou et t'as plus de jus, tu t'es pas entraîné, t'as pas le temps d'aller au practice, donc tu fais du golf pourri, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Donc voilà. Alors, il y a toujours les avantages et inconvénients, quelle que soit ta situation et ton métier. Mais aujourd'hui, ouais, je me consacre du temps pour mon golf. Voilà, c'est
ce qui est non négligeable.
C'est un peu égoïste si tu veux, mais il est temps.
Bah, il est temps quand même.
Voilà, il est temps. Donc aujourd'hui, bah, je joue avec mes potes, je joue avec mes enfants, je passe du temps à droite à gauche. Mais oui, effectivement, je garde toujours un œil attentif à ce qui se fait dans le golf. J'ai beaucoup d'échanges avec les pros que j'ai en ligne régulièrement, avec les directeurs de tournois. Avec oui, j'ai beaucoup d'échanges. On m'appelle beaucoup.
Oui.
Bizarrement, moi je pensais que, tu sais, une fois que la valise est fermée, ça y est, t'es parti, tout le monde t'oublie, et c'est la vie, hein, c'est comme ça, hein, c'est pas grave. Mais on m'appelle, ouais, très souvent. Ouais, y a plein d'abonnés. Quand je dis plein, je sais pas, sur un majeur, je reçois entre 60 et 70 messages sur les réseaux d'abonnés qui me disent vous nous manquez, etc. C'est super gentil.
Ça fait plaisir.
Ah, oui, ils sont adorables. Adorables. Mais encore une fois, surpris. Je ne m'attendais pas.
Moi, ça ne me surprend pas, mais.
Ah oui, non, mais moi, toi, sûrement. Moi, la vie me surprend. Enfin, oui, bizarrement, la vie ne me surprend pas. Et oui, je suis toujours assez ému de ça. Voilà.
Bon. Et tu te reverrais un jour revenir à l'antenne ou commenter occasionnellement
En dépannage pour un coup à l'occasion d'un truc, je ne sais pas, une Ryder Cup exceptionnelle, un machin, quelques minutes, tu vois. Voilà, mais non, il y a un temps pour tout.
Ouais.
Il y a un temps pour tout. Ils le font très bien. Ceux qui sont à l'antenne font des directs fantastiques. Moi, je suis abonné. Voilà, je paye mon abonnement, comme tout le monde. Et je suis les tournois, ça, sans aucun problème. Ouais. Et je ne suis pas ni envieux, ni nostalgique, ni c'était mieux avant. Non, non.
Ouais, toi,
non, non, non. Ce qui s'est fait, c'est fait. Voilà, maintenant, on est sur autre chose, autrement. Sans renier ou rejuger le passé, pas du tout, non, non.
Et d'ailleurs, en parlant de passé, est-ce que ça va être dur, hein, je sais, mais quel est ton plus grand souvenir de commentaires de golf ?
Je pense que le plus grand souvenir en matière d'intensité, de symbole, de réussite et puis également de travail personnel, je pense que c'est la Ryder Cup à Paris.
Oui, évidemment.
Voilà. Le premier Masters que j'ai vécu à Augusta, c'était important parce que c'était une sacrée claque, vraiment. Mais en matière d'émotion, de symbole, de travail, Canal avait mis des moyens incroyables. Ils n'avaient jamais mis autant de moyens. Enfin, vraiment, je l'ai salué plusieurs fois. Hein.
Oui.
Quand j'étais à Canal, on m'a dit « il fait de la lèche le dent », etc. Et je l'ai dit après, quand j'étais plus à Canal. Je le redis aujourd'hui, maintenant que je suis vraiment parti, sans aucun problème. Canal avait mis des moyens incroyables pour cette Ryder Cup 2018. Vraiment. Parce que c'est très coûteux. Hein. Attention.
Ça, c'est sûr.
Des directs télé, comme on en a fait, avec des plateaux construits, etc. C'est beaucoup d'argent. Et donc, franchement, ils nous ont fait une Ryder Cup fantastique. Les techniciens, tout le monde. Ça va rester, pour moi, un des mes plus grands souvenirs pendant toutes ces périodes golf, oui. Ça, ouais. C'est sûr.
Ouais. Et même en termes d'émotion, c'était
l'émotion,
au rendez-vous.
Après, il y a la chance. Tu vois, on aurait eu une semaine au golf national avec de la pluie. Je ne suis pas sûr que le. Eh oui, tu c'est vois, vrai. Ça tient pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose. Il y a la loterie quand même.
Ouais,
on a une
vrai.
Belle semaine avec du beau temps, du beau jeu en plus. Et en plus, l'Europe a gagné. Donc
un dénouement de fou.
Voilà. Ouais. Et puis, une Ryder Cup en France. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Il y a une quinzaine d'années, imaginez une Ryder Cup en France. Personne se mettait sur les rangs pour dire « mais oui, ça va exister ». Non, non. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. On l'a vécu, c'était fantastique. Mais il faut remettre les choses dans le contexte. Hein. Ça n'existait pas avant l'idée.
C'est vrai, c'est vrai.
L'idée.
Oui, c'est vrai.
Ah, donc, ça restera certainement mon plus grand souvenir sur l'ensemble de la retransmission. Quoi.
Et au-delà de la retransmission, est-ce qu'il y a un consultant avec qui tu as vécu un moment fort ou avec qui tu as le plus partagé ?
Il y en a un qui t'a marqué ? Je pense que celui avec lequel j'ai vécu de grands moments, mais aussi de grosses galères, qui souvent ne se sont pas entendus à l'antenne, c'est avec Thomas Levé. Ah ouais. Le PGA, je me souviens d'un PGA où McIlroy gagne. On devait être en Caroline du Sud, je crois. Il me semble que c'était, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'était un PGA, c'est sûr. Et donc, on avait commenté, il y avait beaucoup d'orages, c'était compliqué. Et donc, on avait commenté avec Thomas Levé pendant 5 heures. Les parties du matin. Et finalement, la transmission n'était pas exploitable. Ah. On avait pré-enregistré, donc ils avaient tout enregistré à Paris et c'était pas exploitable, il y avait tellement d'orage. Et on a dû recommander 7 heures
mais non.
Sur le faisceau de l'après-midi jusqu'au soir.
Oh, mon Dieu.
Donc je laisse calculer.
12 heures de disponibilité.
Et on a même commenté, alors ça c'était un US Open, je crois que c'était à Bespech Black avec Dominique Larech et des sauts d'eau. Et on a commenté sans image pendant 32 minutes.
Ouh là là.
Juste au casque. Juste en écoutant ce que disaient les Américains. Et commenter de la télé sans image, j'avais jamais fait. Et ça vient de la radio. Alors évidemment, oui, voilà, ça c'est l'apprentissage de la radio te permet de tenir l'antenne voilà, en parlant d'images que tu ne vois pas.
C'est dingue. En plus, j'imagine que tu avais des petits biscuits.
32 minutes,
c'est énorme.
C'est beaucoup, ouais. Il y avait tellement de flottes. On était inondés. Hein, le TV Campan, l'endroit où sont toutes les télévisions,
ouais.
Notamment à Bespech cette année-là. Tout était inondé. Ils ont ramené des palettes qui superposaient pour qu'on aille d'un bloc à un autre. Enfin, c'était.
Ah oui, c'était.
Il y avait de la flotte partout. Ah ouais, l'enfer. Et donc, forcément, tu as des groupes électrogènes qui ont sauté, tu as des connexions qui ont pété. Et donc, on n'a plus d'image.
Zéro. Pour
voilà. Partir. Donc à Paris, les abonnés Canal avaient de l'image. Voilà. Donc suivaient chez eux normalement. Mais nous, dans notre cabine.
Aucun retour.
Aucun retour. Pas une image, juste le son des Brits.
Et tu
t'es. Et avec lesquels on essayait de se caler pour commenter. Alors répéter, pas mot pour mot, mais en tout cas les suivre. Ouais.
Et toi, tu l'as dit à l'antenne peu, ou...
Quand tu voilà, entends les Anglais qui disent qu'il y a un putt pour le par, un Paul Casey qui est d'un mètre 50, bah, tu le fais en français
ouais,
et tu vois rien. Quoi.
Bien sûr.
Voilà. Et quand les Américains crient dans le casque ou dans la cabine à côté, ouais, super putt, tu fais super putt. Parce que tu n'as pas d'image.
Et vous avez donné le change comme ça pendant 32 minutes.
Ouais. Ouais.
Et personne s'en est rendu compte.
Je ne pense pas.
C'est beau.
C'était une sacrée galère, ça.
Ça, ouais. C'était une sacrée galère.
On en a eu d'autres, mais bon, voilà. Mais pour répondre à ta question, ouais, c'est vraiment avec Thomas Levé qu'on a connu les plus grandes joies. Il m'a cassé des chaises pendant les Ryder Cup.
Ah
il m'a
projeté
des chaises dans la cabine tellement il était hystérique de joie. Enfin, c'était un phénomène. Et puis, on a vécu des galères incroyables, quoi.
Ouais.
Les fameux aléas du direct.
Ouais, exactement.
Voilà.
Comme les fous rires, j'imagine que c'est avec Thomas aussi.
Les fous rires, pareil. Ouais,
c'est tellement difficile.
Couper le micro.
C'est tellement dur.
Couper le micro. Parce que souvent, la fatigue, le fait d'avoir. Tu sais, le fou rire vient aussi d'un état nerveux.
Oui.
Donc, voilà. Mais que des bons souvenirs.
Que des bons souvenirs.
Vraiment, vraiment.
Donc, ça restera avec Thomas ton plus bon grand souvenir.
Oui.
Et avant de passer donc, à la dernière séquence de cet épisode, il y a une question importante. Pour tous les journalistes sportifs qui écouteront ce podcast, quel conseil pourrais-tu leur donner ?
La curiosité. Pour moi, c'est le dénominateur commun. J'ai plein d'amis et de potes qui sont journalistes. Alors, certains sont journalistes politiques, d'autres sont journalistes sportifs, d'autres sont à la présentation de journaux télévisés ou radio, avec lesquels j'ai encore de bons contacts. Et ils ont tous ce dénominateur commun, la curiosité. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué à mes enfants, dont deux voulaient être journalistes, puis finalement, ils sont passés à autre chose.
Ah bon, pour quelle
raison ? Ils ont bien fait.
Ah ouais.
Ça, et la curiosité, c'est-à-dire, ouais. Voilà, t'es assis, je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec le journaliste, t'es assis chez le dentiste, t'as des brochures avec des vieux magazines sur la table, et ben moi, je vais lire les brochures.
Mmh.
Voilà, ouais. Je vais lire tout ce qui est au mur. Voilà, peut-être que ça ne me servira pas. Mais ma curiosité, c'est ça. Ouais. Voilà, je vais voir un livre traîner, je vais l'ouvrir. Et si je n'ai que 15 minutes pour lire, je vais lire 20 pages. Mais je vais lire 20 pages.
L'essence même des journalistes.
Oui,
la curiosité.
Il y a une info, je ne sais pas, je vais être assis, je vais regarder une chaîne d'infos en continu. Il y a une info qui tombe qui me paraît bizarre. Ou en tout cas qui ne me convainc pas du tout. Je vais chercher sur différents sites. Voilà, avec des orientations politiques très différentes, parce que je veux en savoir plus.
Ouais.
Voilà, par exemple. Aujourd'hui, tu vois, je prends l'exemple, ça est arrivé il y a deux jours sur un fait d'actualité sur lequel j'étais un peu... Je me suis dit, c'est bizarre. Et donc, chercher des infos. Pourtant, ça, c'est pas mon boulot, c'est pas... Mais c'est ça. Pour moi, le dénominateur commun d'un journaliste, sportif, politique, peu importe, c'est la curiosité. Ne pas se contenter de ce qu'on va te donner, de ce qu'on va te dire. Et donc, c'est vraiment le message que j'essayais de passer à tous mes enfants en leur disant « Soyez critiques, ouais. Soyez ouverts, allez chercher. » Même pour vous, même si vous n'êtes pas journaliste, peu importe. Mais voilà, ouvrez-vous avec de la curiosité. Allez chercher, écoutez, regardez, lisez.
Ouais.
Voilà.
Et quelque chose d'important aussi, c'est l'émotion. Ça, c'est ce qui a accompagné tout ton travail. Mais alors, comment on transmet une émotion à l'antenne ? Comment on...
En étant soi-même.
Ouais.
Voilà.
Tout simplement.
En étant soi-même. Et puis comprendre que de toute façon, tu ne plairas pas à tout le monde. Je me souviens, les deux premières années, quand j'étais européen, au début des années 90, il y a 30 ans, quoi. à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet. Enfin, en tout cas, c'était balbutiant.
Ouais.
Et donc, les gens, les auditeurs écrivaient beaucoup. Il y avait beaucoup de courriers, cartes postales, lettres, etc. On recevait entre 20 et 30 lettres par semaine, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de communiquer les animateurs radio ou avec les gens que les auditeurs aimaient bien. Et donc, je recevais entre 20 et 30 lettres par semaine à cette époque-là, Europe. Et sur une trentaine de lettres, t'en avais 28 élogieuses, dithyrambiques, gentilles, et puis t'en avais deux fielleuses. Les mecs qui crachaient dessus, parce que... Voilà, enfin, bref, c'est comme ça. Et moi, j'étais très touché par ça au début.
Ouais.
Il y a 30 ans, moi, ça me touchait beaucoup, hein, parce que je faisais de mon mieux, je travaillais comme un fou, je faisais les choses proprement, et puis j'avais des gens qui me vomissaient dessus, quoi.
Ah oui, à ce moment-là.
Ouais.
Déjà,
à cette époque-là. Ah ouais, mais c'est, à cette époque-là, c'était comme ça. Et tu avais pourtant 28 lettres gentilles, etc. Ouais. Et tu te dis, ça compense. En fait, non. Moi, à cette époque-là, ce qui me faisait
toi,
mal...
Toi, tu retenais les deux.
Bah oui, voilà. Et un jour, je rentre donc, chez moi à La Rochelle. Et donc, il y a cette fameuse arrière-grand-mère qui m'a élevé. Et à qui je raconte cette anecdote, et elle me dit, mais tu sais, mon petit bonhomme, faut pas t'en faire, même Dieu ne plaît pas à tout le monde, alors toi.
J'adore.
Et ce jour-là, je me suis dit, ouais, effectivement, vu comme ça, je peux faire tout ce que je veux, jamais je plairai à tout le monde. Et j'ai appris donc à vivre avec ces critiques. Alors, on voit aujourd'hui les réseaux sociaux, comment ça peut détruire.
C'est un déversoir de haine par moment.
Déversoir de haine. L'anonymat renforce tout ça et ne permet pas d'élaguer. Et donc, tu as même des jeunes qui vont jusqu'au suicide. C'est dramatique.
Ouais, c'est dramatique.
Parce que tu as des gens qui te vomissent dessus, quoi que tu fasses.
Ouais, ça, c'est
voilà.
Vrai.
Donc, il faut vraiment se protéger de ça. Alors, c'est facile quand on a mon âge. C'est moins facile quand tu as 14 ans. C'est compliqué. Moi aussi, j'ai des jeunes à la maison qui sont influencés et impactés par ça. Et donc, se protéger de ça, ça veut dire rester soi-même et ne pas faire attention aux critiques. Donc, pour répondre à ta question, pour transmettre, seule façon de transmettre, c'est d'être soi-même. Voilà. Si tu as de l'empathie naturelle, elle passera naturellement. Il n'y a rien de pire que s'installer devant un micro ou devant une caméra et jouer à un autre ou une autre parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien ou qu'on pense qu'il faut donner une meilleure image. Ça ne marche pas.
Ouais, ça ne marche pas.
Non.
Et d'ailleurs, ça ne marche pas non plus avec le consultant avec qui tu es. Parce qu'il y a ceux que tu connais, mais ça t'est déjà arrivé d'être avec un consultant que tu connaissais un peu moins et avec qui...
Ah, bien sûr.
Ça n'a pas pris.
Évidemment, c'est déjà arrivé.
Et là, comment ça se passe ?
Et ben là, tu redeviens technique et pas empathique.
Ouais, c'est ça.
Voilà, tu laisses tomber l'empathie, tu as lancé deux, trois trucs et tu vois que ça ne marche pas dans le commentaire, dans le live. Et donc, tu restes correct, tu restes sur ton truc et tu fais de la technique. C'est-à-dire que tu fais du commentaire basique de qualité. mais basique, sans échange, sur lequel l'humain aurait plus d'avantages que la technique.
Ouais, donc, et ça, ça t'est déjà arrivé, évidemment.
Oui, c'est déjà arrivé. Mais pas souvent. Ouais, avec des consultants qui ne sont pas restés longtemps, d'ailleurs.
Ouais.
Voilà. Pas, c'est pas de mon fait, hein, c'est juste parce que ça s'est fait comme ça.
Ouais, c'était pas leur truc.
Voilà. Et cette humanité, entre guillemets, hein, on parle de sport, hein, quand même, mais cette humanité, cette convivialité, cette chaleur, ce côté très enthousiaste qu'on peut transmettre, ça se fait que par la sincérité.
Ouais.
Voilà. Tu te mets à un micro, tu regardes des cérémonies, je sais pas, une remise de prix, la remise des Césars, des choses comme ça. On va excuser à quelqu'un qui va être maladroit au micro, qui va même bafouiller ou accrocher, mais s'il est sincère, s'il regarde le public dans les yeux, qu'il lit pas de papier, qu'il fait les choses, ça vient du cœur, on pourra lui excuser cet accro.
C'est vrai.
Alors que si c'est trop lisse, mais pas vraiment sincère, et que c'est très bien lu et bien ponctué, ça passera pas.
C'est vrai.
Moi, je me souviens quand fut une époque, j'ai donné des cours de media training à des élèves dans les écoles de communication, et je leur disais comment imaginez-vous et comment les choses se créent. Vous êtes dans une salle de concert, il y a 1500 personnes, et à la seconde même, on a 1500 personnes qui ont le frisson en même temps. Il n'y a pas de décompte, il n'y a pas attention, tout le monde va avoir un frisson, 3, 2, 1, non. Parce qu'il y a eu une émotion à travers une chanson, à travers quelque chose. Et tout le monde, on a tous eu le même frisson au même moment. C'est ça, transmettre les choses. C'est ça, l'empathie, c'est ça, partager. Et ça ne se fait que par de l'émotion, de la sincérité.
Ouais.
Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Si tu joues un rôle, ça ne marche pas.
Et d'ailleurs, dans ces cours de média training, c'est parce qu'il y a beaucoup de journalistes sportifs qui ensuite font un peu de coaching pour justement s'entraîner.
Pas mal de chefs d'entreprise. Moi, j'ai eu beaucoup de chefs d'entreprise pendant une période que j'ai aidé à la prise de parole.
Oui, ça, c'est quelque chose.
Et souvent, on peut être très bon. Enfin, moi, je me souviens, les chefs d'entreprise, notamment les patrons du CAC 40 que j'avais, qui étaient extrêmement brillants dans leur domaine, vraiment. Des gars très intelligents et qui mettaient en place des stratégies, mais qui n'avaient aucune facilité pour expliquer leur stratégie.
Ah oui.
À leur staff. Et c'était très compliqué. Et il n'y avait pas de. Il n'y avait que de la technique et pas de sincérité, quoi. C'était très basique.
Et ça, c'est une expérience.
C'est compliqué, oui, d'expliquer comment faire passer une idée sur laquelle tu travailles depuis un an et demi à ton staff. Tu as 150 personnes devant toi et il faut que tu expliques cette idée avec des mots simples, etc. Donc voilà, on leur apprenait ça, c'est-à-dire transmettre des choses vraies, de la sincérité, même si c'est technique, même si c'est du business. Et essayer de transmettre ça avec des vrais morceaux de sentiments dedans.
Et ça, la transmission, c'est quelque chose qui maintenant t'accompagne tous les jours. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, je le pose autrement, se concrétiser, je ne sais pas, dans une formation, par exemple, pour des journalistes ou du coaching, ou ça se résumera à...
Ça va se résumer.
Ton engagement dans les ONG.
Oui, ça va se résumer à ça. Même si j'ai beaucoup tendu la main à tous les jeunes journalistes que j'ai eus ou sous ma responsabilité ou près de moi, tous, enfin, je n'ai pas à souvenir, j'en ai aidé beaucoup. Et je l'ai fait avec vraiment beaucoup de plaisir et de passion et envie de partager. On est là pour transmettre. On n'est que de passage. Hein. Voilà, dans quelques années, moi, je ne serai plus là. Je serai sous terre ou ailleurs. Et on n'est que de passage.
Ouais.
On ne laisse rien. La postérité, c'est quoi ? C'est que dalle. Quand tu vois les plus grands hommes politiques, même les grands artistes, la postérité, c'est vite effacé. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc, on est de passage. C'est ma philosophie. Hein. Je ne donne de leçons à personne. C'est ma façon d'être. Et donc, pour moi, c'est la transmission. La transmission, l'éducation. Voilà. Et puis, s'il en reste un petit peu, pourquoi pas ? Donc, dans le boulot, oui. Tendre la main à des jeunes, leur expliquer les erreurs à ne pas faire, etc. Leur faire gagner du temps. C'est génial.
Ouais.
Moi, les plus grands patrons que j'ai rencontrés à l'époque où je faisais du coaching, ils étaient grands parce qu'ils s'entouraient de mecs bien plus malins, plus intelligents et plus forts qu'eux.
Ouais.
Oui. Ah bah oui.
Et oui.
Des gars qui voulaient leur place finalement.
Je n'osais pas le dire.
Voilà. Et donc quand tu as dans une rédaction des jeunes journalistes qui sont là avant toi le matin, qui bossent comme des fous, qui pleurent jamais pour j'y arrive pas, et puis qui partent après toi, bah c'est ces gars-là que tu as envie d'encourager.
Bien sûr.
Voilà, filles et garçons, hein, parce qu'on a eu des filles pareilles à la rédaction, de la même manière. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, t'as envie de transmettre, t'as envie de leur expliquer, et puis c'est le rôle de la transmission, c'est vraiment aider, tendre la main.
Et toi qui parles de postérité, si tu as envie que quelque chose de ton passage reste, ce serait quoi?
Voilà, mes enfants.
Ouais.
c'est tout ce qui restera encore,
tout simplement.
Mes enfants, mes petits-enfants, j'en ai 6 déjà.
Déjà 6.
C'est comme ça, c'est le temps qui tourne. Mais c'est génial. À mon sens, la richesse, elle est là.
Ouais.
Après, voilà, on peut vivre de très belles vies sans avoir d'enfants aussi, hein, parce qu'on n'a pas pu en avoir, ou parce qu'on ne voulait pas en avoir. Mmh. J'ai des amis, moi, qui n'en ont pas. Bon, ok, c'est pas un problème. Mmh. Pour moi, la vraie richesse, c'est ça. La vraie postérité, c'est tout ce qui reste. Tu vois, on est en 2024, je parle de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère qui était née en 1895. Et j'en parle aujourd'hui.
Quand même.
1895, quand même. Oui. Ouais. Donc, elle est morte centenaire. Bref, tout ça pour dire que c'est ça qui, pour moi, c'est ça, la postérité. C'est-à-dire que tes petits-enfants ou tes arrière-petits-enfants parlent de toi en disant « Ah, tu sais, ton arrière-grand-père, il faisait ça. Voilà. » Mais après, le reste, tout s'efface, hein, tu sais. Hein. Tout est oublié.
Ouais, je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord. Manu, il y a des petites choses qu'on aimerait apprendre de toi et ne pas oublier justement, pour conclure cet épisode. Ça s'appelle le Fast and Curious, je ne sais pas si tu connais, mais en gros, c'est toute une série de questions auxquelles tu dois répondre spontanément.
Spontanément, avec un mot ou une phrase?
Avec une phrase. Et après, ce sera un Fast and Famous.
On est tous bavards, les journalistes, c'est ça le problème.
J'adore.
C'est ça.
Et puis, on a le temps.
C'est notre grand défaut.
Donc, on va commencer par ce Fast and Curious. Donc, tu réponds spontanément, sans réfléchir. Quel est ton premier geste le matin?
Je vais aux toilettes, je me lave les dents. c'est toujours dans ce sens-là.
Et c'est toujours dans ce sens-là.
Ah oui, je peux pas me lever si je me suis pas brossé les dents. C'est, voilà.
J'adore. Si tu étais une qualité?
Le partage.
Et un défaut?
L'égocentrisme.
Si tu étais un coup de golf?
Ah, forcément un putt qui rentre. Ah ouais, c'est mon domaine préféré. Pour moi, le golf, c'est le putting.
Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois?
Quand ma petite fille de 1 an et demi s'est fait opérer la semaine dernière. Wow. Avec c'était très compliqué, avec des grosses amygdales de la taille d'un adulte, et donc elle a failli y passer. Et ma petite puce est en pleine forme et je lui fais des bisous. C'est la dernière fois que j'ai pleuré. Là, c'était la semaine dernière.
J'aurais peut-être pas dû poser cette question.
C'est la vie, hein.
C'est la vie. Ton dernier fou rire alors?
Mon dernier fou rire, c'est quand notre petit dernier, qui a 14 ans, essaie de nous expliquer comment marche Instagram. Et donc, avec sa mère, on s'est regardé et on s'est tapé un fou rire. Il nous a rien appris, hein, mais bon, il faut le laisser croire qu'il nous apprend.
Bah, c'est ça le plus important. Tu regardes quoi à la télé quand tu fais une insomnie?
Alors, moi, je suis pas très série. Voilà, donc je sais que je me fais chambrer régulièrement par tout le monde, mes potes, mes enfants, tout le monde. Ah ouais, tu regardes pas ça, telle série? Non, je suis pas très série, voilà. En revanche, j'aime bien regarder les films des années 70. J'adore ça. Si j'ai un coup de blues parce que voilà, on a des problèmes de santé ou autre, je vais me refaire un Tonton Flingueur, je vais me refaire le Café Rebif, je vais me refaire, voilà, c'est ça.
Un bon classique.
N'aime pas que ce cinéma, mais j'aime beaucoup ce cinéma.
D'accord. Voilà. Le dernier podcast que tu as écouté, si tu en écoutes?
J'ai écouté le tien, avec David Cosette,
oui,
que je salue,
mais
voilà,
oui,
avec lequel tu étais. Et c'est le dernier podcast que j'ai écouté.
Oh, génial, merci beaucoup.
Il y a quelques jours, il y a 3 jours.
Merci beaucoup. Quel est ton péché mignon?
Le chocolat. Ah oui,
moi aussi.
C'est une lutte toute la vie.
D'accord.
Non, pas trop. Mais si, t'as mérité. Non, pas.
Plutôt selfie ou photo de groupe avec un retardateur?
Ah non, selfie. Et d'ailleurs, quand on était en plateau sur les premiers plateaux Golf Plus Le Mag, je faisais souvent la photo avec l'invité. Et donc, je l'ai raté souvent. Et donc, Thierry David m'avait appelé Selflou. Voilà, pour la petite histoire.
Pas mal. J'adore. On va être obligé de parler des réseaux sociaux, malheureusement.
Oui.
Donc, plutôt Instagram ou plutôt Twitter?
Non, plutôt Insta quand même. Oui.
Plutôt YouTube ou TikTok?
YouTube. J'ai défendu à mes enfants d'installer TikTok sur leur téléphone.
Voilà. C'est bien. Roman ou BD?
J'ai longtemps été BD, mais BD pointu. J'avais même fait pendant 3 ans l'animation à Angoulême du Salon. Et j'étais très impliqué dans la BD. Je travaillais beaucoup. J'avais eu la chance de faire des émissions avec Gottlieb, avec tous ces gens-là.
Super.
Ouais, vraiment. Et depuis quelques années, roman quand même.
Ouais.
Depuis une bonne dizaine d'années, roman. Ouais, je suis assez consommateur.
Plutôt musée ou expo?
Moi, musée, pour moi, c'est important parce que, alors, on parlait tout à l'heure de laisser une trace, mais pour moi, c'est important. Ouais, je suis féru d'histoire, j'adore l'histoire, j'ai toujours aimé ça. Et donc, quelle que soit la culture, quel que soit le lieu, pour moi, le musée, c'est irremplaçable. C'est ce qui laisse une trace. Ça parle de nous, les humains, à travers l'art, à travers les inventions. Mais pour moi, oui, ça, c'est une trace. Donc, musée.
Paris ou ailleurs ?
Oh, ailleurs. Je ne suis pas un vrai Parisien, moi. J'ai vécu à Paris, j'ai travaillé à Paris, mais je ne suis pas Parisien.
Non. Mer ou montagne ?
Ah, mer. Mer Rochelle.
Ouais, évidemment. Course à pied ou course au marché ?
Alors, course à pied. J'ai longtemps couru. Je courais 3 fois par semaine. J'ai fait ça pendant presque 17 ans. J'en avais besoin. C'était de la cam. Il fallait que je cours. Voilà. Donc, j'ai longtemps couru. Je courais à peu près entre 10 et 12 km par jour, 3 à 4 fois par semaine.
Ah oui ?
Ah oui. J'ai longtemps fait ça. Et comme un idiot, j'ai longtemps fait ça. Pas que en sous-bois, je l'ai fait beaucoup sur la route et je me suis déglingué le dos. Et j'ai eu une double opération S1, L5 et L5, L4, en grande cause des chocs sur le bitume.
Ah oui.
Voilà. Comme à bêta que j'étais, en disant, mais non, t'es Superman, bien sûr que tu sais courir sur le béton. Et en fait, c'est une grosse idiotie.
Ouais.
Faut pas.
C'est vrai. Beatles ou Rolling Stones ?
Ah, Beatles. Ouais, Beatles, pour plein de raisons, pour la créativité de Paul McCartney, pour l'ingéniosité de John Lennon, pour ce qu'ils ont créé, cette musique qu'ils ont inventée. Ils ont inventé, voilà. Ok, ils se sont baignés dans le rock'n'roll dès le début et ils ont été inspirés par les Chuck Berry et autres, mais ils ont créé une musique qui est aujourd'hui, t'écoutes Coldplay, c'est... Alors, j'aime beaucoup Coldplay, hein, mais ça pourrait être du Beatles.
Ouais, c'est vrai.
Voilà,
c'est
donc vrai. Oui, Beatles.
NTM ou IAM ?
IAM quand même. IAM, j'ai vécu quelques années à Marseille, à Aix-en-Provence aussi, et donc j'ai eu l'occasion de les rencontrer, on a fait des émissions ensemble, bah, c'était tellement sympa, c'était le rap frais, ensoleillé que j'aimais bien, quoi. Vraiment, vraiment.
Juliette Armanet ou Clara Luciani ?
Ah ben, je dirais Juliette Armanet, parce que Flamme d'abord est un bon titre, tu vois, un peu disco sound quand même.
C'est vrai.
Voilà, et je la trouve très créative. C'est une fille qui écrit, compose, réalise, arrange. Et il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et donc, Juliette.
Picasso ou Van Gogh ?
J'ai toujours eu du mal avec Picasso parce que je dois pas être assez intelligent ou je suis pas assez éveillé. J'ai essayé de comprendre, on m'a expliqué bien sûr, hein, mais j'ai beaucoup de mal avec l'art abstrait et donc ça sera Van Gogh.
Warhol ou Basquiat ?
Warhol quand même. Warhol pour sa folie,
ouais.
Sa folie, sa façon d'exprimer les choses, cette façon de rendre les choses décalées. Enfin voilà, un artiste quoi.
C'est vrai, je suis d'accord. Foot ou rugby ?
Ah, rugby. J'ai commenté du foot, j'ai commenté un peu de rugby, du seven, mais rugby, pour tout ce que ça représente en symbole, en implication, j'ai beaucoup de potes rugbymen qui jouent au golf, avec lesquels on se fait des petites compètes, etc. Mais ouais, plus le rugby, même si j'ai des amis ex-footeux, champions du monde, golfeurs, etc., que j'aime beaucoup, hein. Mais le sport lui-même, ouais, rugby.
Ouais. Golf ou ski ?
Ah bah golf maintenant, ouais, golf, ça, c'est sûr, c'est fini, c'est pour la vie.
Hein. Ouais, ça je comprends. PGA Tour ou DP World Tour ?
Eh bien, j'ai longtemps été un grand défenseur du DP, longtemps du Tour européen donc, très longtemps, mais j'avoue que voilà, le PGA Tour, quand t'es aux États-Unis et que tu vis du PGA Tour, ah, c'est un kiff quand même.
Ouais,
vraiment.
Ouais, je suis d'accord. Et donc cette dernière séquence, c'est la séquence Fast and Famous. En gros, je te donne des noms sportifs. Qui ont les mêmes prénoms et à chaque fois tu me dis celui que tu préfères.
Ok.
Mathieu Pavon ou Mathieu Fèvre ?
Mathieu Pavon.
Raphaël Jacquelin ou Raphaël Varane ?
Ah. Non, Raph Jacquelin quand même.
Victor Dubuisson ou Victor Wembanyama ?
Deux stars, pas la même taille,
mais, oui, c'est vrai.
Mais j'ai un petit faible pour Victor Dubuisson qui est un garçon adorable, vraiment. Je suis vraiment très heureux que sa vie ait changé et j'adore sa façon d'être, il est lui.
Grégory Avray ou Grégory Coupet ?
Ah, peut-être... C'est difficile. Ouais, j'adore Grégory Avray, Greg c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, on s'apprécie beaucoup. Mais Greg... Bon, on va rester quand même golf, on va dire après.
Julien Ken ou Julien Beneteau ?
Julien Ken, c'est mon ami, donc il va m'en vouloir si c'est ça. Mais j'aime beaucoup Julien Beneteau, et avec lequel on a fait pas mal de directs aussi. Voilà, ouais. Donc je vais dire à égalité.
À égalité. Oui. Thomas Levet ou Thomas Ramos?
Ah, Thomas Levet, même si j'aime beaucoup Thomas Ramos. Thomas Levet, c'est mon poteau.
Jean Vandevelde ou Jean Galfione?
Ah, intéressant. J'ai beaucoup travaillé avec Jean Vandevelde. On a fait de beaux directs. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup par sa connaissance du golf. Et Jean Galfione, qui pour moi reste une star, une méga star, vraiment, qui a fait progresser son sport d'un point de vue de l'image, beau gosse, tout. Enfin, il a tout véhiculé, les records, tout. Je vais les mettre à égalité quand même.
Normal. Céline Boutier ou Céline Dumère?
Non, Céline Boutier. Désolé Céline, mais Céline Boutier a fait un truc incroyable, quoi. Déjà, ouais. Gagner un majeur, enfin bon, pas que, tout ce qu'elle véhicule. Elle vient d'un endroit en région parisienne où elle n'était pas la meilleure de son groupe. Et c'est vraiment la démonstration de l'obstination, du travail, du don de soi dans ce que l'on aime. Elle est ce symbole-là. Donc, multiples chapeaux pour Céline Boutier. C'est une très, très grande.
Patricia Meunier-Lebouc ou Patricia Girard?
Ah. Pat Lebouc, quand même, c'est elle qui a permis à la France de gagner ce majeur, quand même. Hein, tu vois, bon, certes, ouais. Madame Lacoste, avant, en avait gagné, mais elle était amateur. Donc, Pat Lebouc, c'est quand même... Non, Patricia Lebouc.
Et ben justement, Catherine Lacoste ou Cathy Freeman?
Ah, Catherine Lacoste, quand même. Ouais. Ah ouais, Catherine Lacoste. Qui restera dans nos mémoires. Alors, les plus jeunes, peut-être, n'en se souviennent pas, mais bon, on rappelle régulièrement son victoire alors qu'elle était amateur. Et donc, Catherine Lacoste, quand même.
Alors, je finis par les GOAT, les fameux Great of All Time, qui n'ont pas de concordance de prénom.
Non.
Nadal ou Federer?
D'un point de vue consensuel, par rapport à ce qu'on m'a reproché souvent en disant que j'étais un peu trop lisse, je dirais Federer. Ça correspond plus à ce que je suis.
Zidane ou Jordan?
Ah non, Zidane quand même.
Zidane.
Ah oui. Ah oui, Zizou, c'est Zizou. Hein.
Ouais,
c'est ça. Ouais,
Zizou, faut pas l'enlever,
Zizou,
ça.
Non, Zizou, c'est Zizou, quoi.
Moi, volontairement, j'ai pas mis Tiger Woods, parce que je connais ton avis sur la question.
Ouais.
Et avant de conclure, j'ai deux petites questions que j'aime bien poser pour finir. Tu faisais quoi juste avant qu'on se parle?
J'ai joué au golf. Je suis allé prendre ma douche. Voilà, j'ai bu un café et je suis venu te voir.
Génial. Et tu vas faire quoi juste après?
Là, je vais m'occuper du petit dernier qui va rentrer. Voilà.
Oui.
Et ouais, il va rentrer. Et je sais qu'il a un contrôle d'anglais aujourd'hui et qu'il était boiteux hier soir. Donc, je vais regarder aujourd'hui si ça s'est bien passé. On va préparer ce qu'il y a demain. Quoi. Voilà.
J'adore. Ben merci beaucoup Christian d'avoir accepté de commenter les différents matchs de ta vie avec nous. T'es le bienvenu quand tu veux à ce micro.
Merci.
Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Passionneurs. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, dans la vie comme sur les terrains, soyez sport. Merci Christian.
Longue vie aux Passionneurs.
Merci.